Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Alors que les journées de ce début de mois de mars sont rythmées par les averses et les giboulées, qui a dit qu'il n'y avait plus de saison? Certains en concluront que c'est un temps à rester chez soi, à lire et à écouter de la musique. Pour ma part, je préfère dire que c'est un temps à aller dans les salles de concert, ce qui tombe bien puisque les concerts, il va en pleuvoir aussi dans les semaines qui viennent. C'est pour vous les annoncer et vous les présenter que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le toujours fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Notre duo est très honoré d'accueillir et de saluer l'invité de ce numéro, Thierry Dargoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole. Et s'il est là, c'est pour parler de l'Orchestre Symphonique Toulousain, bien sûr, mais plus encore pour évoquer la deuxième édition des musicales franco-russes. Elles ont lieu à Toulouse et un peu ailleurs dans notre région du 10 mars au 3 avril, avec un programme encore plus copieux et prestigieux que l'an dernier. Nous nous y plongerons en seconde partie d'émission avec Thierry Dargoubet. Tout d'abord, retour sur l'actualité de la semaine dernière. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et c'est d'ailleurs avec l'Orchestre National du Capitole que nous ouvrons cette rubrique en revenant sur le concert qu'il a donné en fin de semaine dernière, vendredi 28 février à la Lograin, une soirée où, chose rare, il n'y avait pas de soliste invité, mais tout de même un chef invité. Cette fois-ci, c'était le Singapourien Kachou Mong, déjà vu l'an passé à la direction de l'ensemble toulousain. Au programme, il y avait la 25e symphonie de Mozart et la 9e de Bruckner. Ça peut paraître bizarre comme ça sur le papier. Dans la salle, parmi les spectateurs, Serge Chauzy était présent, vous vous en doutez. Serge, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la prestation de l'Orchestre du Capitole et de son chef ce soir-là?
Eh bien, il s'agissait là d'un étonnant dialogue, hein, on peut dire, entre Mozart et Bruckner, on ne voit pas bien le lien, mais c'était vraiment intéressant. Alors, il faut quand même rappeler que Kachou Mong, qui est donc né à Singapour en 1986, un jeune chef, a été l'un des derniers disciples de Kurt Masur. Donc, il y a quand même une certaine filiation. Alors, il faut le dire, il a dirigé tout le concert sans partition. À la rigueur, Mozart, je veux bien, c'est un peu court, concentré, mais jouer toute une symphonie de Bruckner sans partition, je trouve ça tout à fait incroyable. Donc, tout a commencé avec cette 25e symphonie, hein, la petite sol mineur, donc, qui est une symphonie particulière en ce sens qu'elle suit un peu ce que Haydn avait commencé, c'est-à-dire elle illustre un peu le Sturm und Drang, c'est-à-dire cette espèce de dramatisation dans la musique. Et là, évidemment, le chef était tout à fait à l'aise. Il était très Sturm und Drang, d'autant plus qu'il a demandé, je suppose, pour cette exécution, un effectif important de la symphonie, beaucoup plus important que ce qu'on entend d'habitude, avec quatre contrebasses et le reste en conséquence. Donc c'était particulier. Très dramatique, hein, vraiment très dramatique. Hein, et puis très énergique dans sa direction. Il dirige avec vraiment beaucoup d'ardeur et d'intervention auprès de tous les musiciens. Il dirige, on a l'impression, chaque pupitre de manière séparée. Donc c'était intéressant, mais vraiment copieux, en quelque sorte, hein, comme conception. Mais alors là, on est passé à tout notre monde orchestral avec la 9e de Bruckner, qui, comme on le sait, est la dernière de ses symphonies et qui est inachevée, puisqu'il n'a pas pu terminer le 4e mouvement. Il n'y a que 3 mouvements. Il y a eu certaines tentatives de compléter la symphonie, mais là, le chef a voulu diriger l'œuvre originale de Bruckner, c'est-à-dire en 3 mouvements. Alors, vous savez que Bruckner était qualifié de ménestrel de Dieu, et c'est tout à fait approprié avec cette symphonie, puisqu'il l'a dédiée en toute humilité à Dieu s'il veut bien l'accepter. Alors, c'est une symphonie magnifique, hein, évidemment, hein, surtout qui commence avec un grand mystère, hein, avec cette espèce de ce qu'on appelle Urnebel, c'est-à-dire le brouillard des origines, avec cette vibration des cordes presque silencieuse, hein, vraiment aux marges du silence. C'est vraiment très beau, très bien fait. Et alors, il faut constater que les cuivres sont très favorisés dans cette symphonie, puisqu'il n'y a pas moins de 9 corps. Des œuvres avec 9 corps, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Bon, elle hérite un peu de Wagner, c'est évident, hein, en particulier dans le dernier mouvement, il y a une filiation avec Parsifal qui est impressionnante. Hein. On a l'impression d'entendre presque des extraits de Parsifal. Donc, très très bien, avec les éclats très cuivrés donc, du premier mouvement, des commentaires très colorés, très chaleureux des bois. Les pupitres des bois de l'Orchestre Capitole sont réputés, hein, ce sont des musiciens formidables. Et donc avec une tension dans les cordes qui était tout à fait perceptible du début à l'autre, avec une science des crescendo. Alors c'est très important chez Bruckner, tout part de rien, du silence, et puis c'est des crescendo qui souvent n'aboutissent pas d'ailleurs. On a l'impression qu'on va arriver à une explosion, ben non, l'explosion ne se produit pas. Donc le chef a très bien maîtrisé cette animation des crescendo. Et avec surtout la beauté de l'adagio final, hein, qui a souvent été qualifié d'adieu à la vie, c'est vraiment une merveille. Il est d'ailleurs titré « Sehr langsam, feierlich », c'est-à-dire très lent et solennel. Et effectivement, ça l'est. Et là, on retrouve quatre tuben wagnériens, ces fameux instruments, oui, qui sont une espèce de mélange entre le cor et le tuba, qui possède une sonorité, mais d'une beauté, d'une douceur, d'une rondeur. Là, vraiment, chapeau aux quatre musiciens, aux quatre cornistes du pupitre de cor, qui ont changé d'instrument, donc, pour le mouvement final, hein. C'était vraiment, vraiment très, très beau. Il faut rappeler que, quand même, ces instruments ont été conçus par Adolphe Sax, quand même, à la demande de Wagner, évidemment, et que Wagner les a utilisés dans sa tétralogie et dans le Parsifal, donc. Alors, vraiment, il y avait une tension qui passait dans toute cette interprétation. La preuve, le long silence qui a suivi vit les derniers échos. Il a fallu redescendre sur terre, et aussi bien le public que le chef lui-même et les musiciens, il a fallu un certain silence avant de se réapproprier le temps présent. Donc c'était une belle exécution.
Et c'est bien de temps en temps que la salle soit silencieuse après l'exécution.
Ah
d'une,
oui.
Parce que malheureusement, c'est pas souvent le cas.
Non, il n'y a pas eu beaucoup de tout d'ailleurs.
Oui.
Et vraiment un grand respect du public, très enthousiaste pour saluer cette interprétation.
On a la chance d'avoir Thierry Dargoubet parmi nous aujourd'hui. On va parler avec lui de Kachung Mong, ce chef singapourien. Sauf erreur de ma part, c'était la deuxième fois qu'on le voyait à Toulouse, diriger l'orchestre.
En fait, c'était la troisième fois.
Troisième.
C'est un chef qu'on avait repéré puisqu'il avait gagné l'avant-dernier fameux concours Gustave Mahler à Bamberg. Le dernier, pardon. Et l'avant-dernier étant d'ailleurs Lav Shani. Et en fait, Lav Shani et Yo-Yo, un succès vraiment considérable auprès des musiciens de l'orchestre. Donc, on est parti à cette aventure. Après, ce que je savais, c'est que j'ai rencontré assez souvent Kurt Mazou. On avait beaucoup de projets. Il venait souvent à la tête de l'Orchestre National,
oui,
à Toulouse.
Oui.
Et donc, j'ai des souvenirs assez émus, d'ailleurs, je dois dire, de concerts avec lui. Et il m'avait parlé, effectivement, de ces jeunes étudiants qui venaient lors de ces masterclass. Et donc, il m'avait parlé également de ce chef singapourien. Donc voilà, il a fait son premier concert. C'était je ne me rappelle plus en quelle année, mais ça doit être il y a 3 ans environ, pour un happy hour. C'est la 9e de Dvorak, je m'en souviens, comme si c'était hier. Donc, il est revenu une deuxième fois, puis maintenant une troisième fois, avec un répertoire complètement différent, évidemment.
La deuxième fois, c'était pour Moondog. Hein.
Et la deuxième fois, c'était effectivement pour Moondog.
Oui, voilà. Les musiques de Moondog, voilà. Donc, vraiment très ouvert.
Donc un chef éclectique, un chef énergique, avec quand même une densité musicale intéressante. Donc c'est un chef qu'il faut évidemment suivre. Et comme vous le savez, Tougan Toukiev partira un jour de Toulouse. Donc
vous le suivez,
avec les musiciens de l'orchestre, nous recherchons évidemment activement un potentiel successeur.
Donc Kachung Mong peut faire partie des candidats.
Possible, mais avec pas mal d'autres. Hein. Il y a beaucoup de jeunes chefs qui se
succèdent. Vous savez, la rentrée 2020 de l'orchestre est en fait, pour moi, époustouflante.
Ah oui,
c'était d'abord Parsifal.
Oui.
Alors évidemment, c'est Parsifal, c'est une écriture orchestrale absolument phénoménale. Et donc, j'ai rarement entendu l'orchestre sonner comme ça dans la fosse du Théâtre du Capitole avec ce chef que je ne connaissais pas, que nous ne connaissions pas en fait, qui s'appelle Frank Berman, qui reviendra d'ailleurs diriger un programme symphonique avec l'orchestre. Et puis, un garçon, un jeune musicien, on va dire, russe, Maxim Elyachev, musicien, chef d'orchestre, pianiste, jouant du cornet à bouquin, qui a littéralement transformé la lumière de la pastorale. Et donc ça, c'était pour moi un grand moment. Et puis la semaine suivante, Kachunon. Et cette semaine, encore un chef très, très intéressant pour la 7e de Beethoven. Donc c'est des moments vraiment magiques avec l'orchestre.
Maxim Emelianichev, dont nous allons reparler dans quelques minutes. Pour l'instant, on revient à ce concert du 28 février. Il y avait la 25e symphonie de Mozart, la petite en sol mineur, comme on dit au programme. C'est certainement une des plus connues et des plus appréciées du grand public. Donc personne ne va me reprocher d'en diffuser un extrait. Voici le tout début du premier mouvement, Allegro con brio. Le premier mouvement Allegro con brio de la symphonie numéro 25 de Mozart, ici interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Leonard Bernstein, c'était une des œuvres au programme du concert donné vendredi 28 février par l'Orchestre du Capitole, et nous allons complètement changer de registre et quitter la musique symphonique, puisque c'est au dernier concert en date de la saison des grands interprètes que nous allons nous intéresser maintenant. Ça va nous donner l'occasion de reparler de l'invité du précédent numéro de Mélomanie, le mandoliniste Julien Martin. Il était lundi sur le plateau de Saint-Pierre-des-Cuisines avec Vanessa Benelli-Moselle. Nous avions longuement évoqué le programme de ce concert avec lui, pour l'essentiel constitué de pièces du CD Beethoven Suite qu'il a fait paraître récemment avec la jeune pianiste italienne sous le label Naïve. Serge Chosy, vous étiez là encore à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le duo franco-italien a-t-il régalé le nombreux public présent comme on était en droit de le penser et de l'espérer?
Ah mais tout à fait, ça a été vraiment une espèce de fête. Hein. Déjà l'instrument a une aura particulière, la mandoline, bon, instrument à cordes pincées, à quatre doubles cordes d'ailleurs, j'ai appris ça récemment. Donc c'est... Et puis avec quand même un interprète tout à fait exceptionnel, puisque on a de la chance à Toulouse d'avoir Julien Martineau,
oui,
qui est vraiment responsable du renouveau de cet instrument.
En France, c'est certain.
Ah oui, en France et même au-delà.
Oui, donc, parce qu'il est même demandé en Europe, oui.
Oui, et puis il faut pas oublier qu'il est professeur également au conservatoire à rayonnement régional.
La classe de mandoline, très élève
Toulouse. Classe de mandoline qui est très suivie. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cet instrument. Alors justement, dans ce public, qui était nombreux, qui a rempli la salle, l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, eh bien, il y avait de nombreux enfants. C'est, je crois, une des premières fois où je vois des tout jeunes qui étaient là, donc attirés peut-être par le fait que l'on donne un concert avec une mandoline. Bon.
Qui est un tout petit instrument en plus.
Oui, un petit instrument absolument discret, hein, donc discret, pas sonorement, mais...
Non, mais pour les enfants, ça va, pour c'est les... pas un instrument qui les écrase,
non, non. Et donc, avec Vanessa Benelli-Moselle, ça a très très bien marché, ils s'entendent parfaitement, ils se connaissent depuis quelques temps, et donc ils ont donné un programme, alors, c'est important à dire, un programme d'œuvres originales. Il n'y avait aucune transcription.
Pas de transcription, effectivement.
Donc, c'est important, à commencer par Scarlatti. Alors, Scarlatti, qui a composé 555 sonates pour le clavier, eh bien, il en a transcrit lui-même certaines pour clavier et mandoline, dont la sonate en mi mineur Kirkpatrick 81, qui est la première qu'ils ont jouée, avec une légèreté, une grâce tout à fait admirable. Et puis il y a eu les grands papes de la mandoline, avec quelqu'un comme Raffaele Calace, qui est responsable un peu du renouveau au 19e siècle et au 20e d'ailleurs de la mandoline, avec un duo concertant formidable qui s'appelle Rhapsodia Napoletana, où on reconnaît au passage la chanson Santa Lucia, hein, donc c'est amusant. Et puis il y avait un autre, alors que j'avoue je découvrais, Carlo Munier, un autre napolitain, comme Raffaele Calace, et donc dont ils ont joué un Capriccio Spagnolo, qui est une œuvre très brillante, très rhapsodique et très virtuose. Et puis quand même, l'essentiel des œuvres jouées ce soir-là, elles étaient signées Beethoven, parce que oui, Beethoven a composé de manière originale pour la mandoline. Alors, c'était pour une certaine dame qui lui plaisait beaucoup, pour laquelle il a composé, et qui jouait de la mandoline, cette dame en question. Et donc, il lui a composé quelques œuvres, dont certaines relativement faciles, dont l'Adagio ma non troppo. Alors, si je dis relativement facile, c'est parce que Julien Martineau lui-même l'a déclaré, hein, donc je ne m'hasarderai pas à dire ce qui est facile et difficile. Et après, il a joué un andante et variation, Beethoven est le champion de la variation, d'une virtuosité incroyable, hein. Là, vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Et donc, il joue encore deux autres œuvres de Beethoven, deux sonatines, une en do mineur, une en do majeur. Alors, c'est un peu paradoxal avec la mandoline, avec comme de la douleur exprimée, et puis une deuxième, la sonate en do majeur, alors très animée, très vive, formidable, avec le piano magnifique. Et puis quand même, à côté de Beethoven, il y a une sonatine pour mandoline et piano de Hummel. Alors Hummel, c'est ce grand pianiste de l'époque de Beethoven, hein, qui était réputé comme étant le plus grand virtuose de son temps. Mais alors, cette sonate, comme nous l'a rappelé Julien Martineau, elle est nommée sonate pour piano avec accompagnement de mandoline. Donc ça relègue un peu la mandoline au deuxième plan. Et effectivement, c'est une partition qui est d'une virtuosité stupéfiante pour le piano. Et ce que la pianiste a magnifiquement assumé. Donc c'était vraiment très intéressant, très nouveau, varié, coloré. Et donc un beau programme qui s'est prolongé encore, puisque le succès était tel que les deux interprètes sont revenus pour jouer deux bis, avec en premier bis une transcription de Fritz Kreisler de la danse des ombres heureuses, la fameuse d'Orphée et Eurydice de Gluck. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un certain pianiste brésilien, Nelson Frère, oui, qui très souvent joue cette œuvre comme bis. Donc.
Et Renaud Capuçon.
Et oui, également Renaud Capuçon, qui aime beaucoup cette œuvre, à juste titre d'ailleurs. Et deuxième et dernier bis, c'est un prélude et allegro de Kreisler, alors qui est nommé Rondino sur un thème de Beethoven. Donc on voit le lien avec les autres œuvres, mais qui, d'après Julien Martineau, c'est peut-être faux, et en fait le thème est peut-être de Kreisler lui-même. Hein. Alors c'était écrit pour violon, mais ça a été transcrit, bien entendu, pour mandoline et piano. Donc un beau concert, agréable, léger et très très intéressant.
Et qui s'est joué devant une salle pleine.
Ah oui, absolument.
Salle pleine, assistance enthousiaste apparemment. Thierry Dargoubet, vous étiez présent. Julien Martineau, c'est un musicien que vous suivez, que vous invitez assez souvent à jouer avec l'Orchestre du Capitole.
Ben, Julien Martineau, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a 7-8 ans, qui m'a paru très intéressant. D'abord parce qu'il est un musicien, vraiment magnifique musicien, mais c'est également quelqu'un qui a envie de transmettre. Et quand on voit maintenant sa classe au Conservatoire Régional, c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis touché. Et donc oui, dès que Julien Martineau, on peut le mettre en avant avec l'orchestre, évidemment, le fait. Moi, je retiens effectivement son concert avec Rinaldo Alessandrini.
Ah, les concertos de Calacci et de Vivaldi.
Et de Vivaldi, qui était absolument merveilleux. Alors évidemment, avec un orchestre un peu plus fourni, il faut légèrement sonoriser la mandoline.
Bien sûr, oui.
Mais on le fait maintenant avec beaucoup de talent. Enfin, Julien le fait avec beaucoup de talent. Et donc, oui, c'est un musicien qu'on suit beaucoup. Et je me suis d'ailleurs absolument régalé à ce concert. Et je disais d'ailleurs autour de moi, enfin auprès de mes amis, ça a éclairé ma soirée qui était un peu compliquée pendant la cadre des préparations des Franco-Russes et puis surtout dans ce très très mauvais temps. Donc voilà, c'était un délicieux moment.
Un rayon de soleil. Ouais. Merci à Grands Interprètes d'avoir organiser ce concert.
Eh bien, on va prolonger ce rayon de soleil, puisque être revenu sur ce concert va nous permettre de diffuser de nouveau un extrait du CD Beethoven Suite, paru donc depuis peu sous le label Naïve. Comme je le rappelais il y a quelques minutes, j'ai choisi de vous faire écouter la sonatine pour piano et mandoline WOO44A de Beethoven, jouée comme il se doit par Vanessa Benelli-Moselle et Julien Martineau. Thank you. La sonatine pour piano et mandoline en ut majeur WOO 44A de Beethoven, jouée par Vanessa Benelli-Moselle et Julien Martineau. Le prochain concert de la saison des grands interprètes est programmé mardi 10 mars à la Halle aux Grains. Ce sont l'orchestre et le chœur du Bolchoï qui vont s'y produire sous la direction de Tougan Sokiev, ce qui constituera le concert d'ouverture des deuxièmes musicales franco-russes. Voilà donc une transition toute trouvée et la meilleure façon pour moi de conclure cette première partie d'émission. Quelques petites secondes de pause et nous retrouvons en compagnie de Serge Chosy et de notre invité d'honneur Thierry Dargoubet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec Thierry Dargoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole. Avant qu'on regarde la programmation de ce festival 2020 avec vous, Thierry Dargoubet, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette association. Un dialogue musical franco-russe, parce que si elle porte ce nom, ce n'est pas par hasard, les musicales franco-russes s'inscrivant dans ce qui s'appelle le dialogue de Trianon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit?
Alors d'abord, peut-être la genèse du projet, c'est en fait une rencontre, je dirais, avec Tougan Sokiev. Ce n'était pas très difficile pour moi, parce que c'est plus de 15 ans maintenant que nous nous connaissons, que j'ai la chance d'être finalement son compagnon, on va dire, artistique auprès de l'orchestre. Et donc on a eu l'idée d'imaginer un temps fort. Tougan Sokiev, directeur musical de Toulouse, directeur musical du Bolchoï, donc la thématique était tout de suite absolument trouvée. Et en même temps, on a appris qu'il y avait eu la création, puisque là on était dans l'année 2017, création par notre président Emmanuel Macron, d'une association qui s'appelle Le Dialogue de Trianon, créée à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine à Versailles, pour justement imaginer un prolongement dans les relations d'amitié entre nos deux pays. Voilà, donc ça c'était politique. Et donc, on a tout de suite travaillé avec les personnes qui composent le dialogue de Trianon. Donc en particulier, Pierre Morel, qui est le vice-président du côté français du dialogue, qui est ex-ambassadeur de France en Russie. Et également, avec Alexandre Orlov, qui était l'ancien ambassadeur de Russie en France. On a commencé à échanger, et donc avec évidemment d'autres personnes. Et puis voilà, on a imaginé cela. Mais on l'a imaginé, et ça c'est peut-être la force de l'association, de l'idée en fait, c'est de fédérer autour du projet la mise en relation de différents partenaires. Et donc ces partenaires que je salue vraiment très chaleureusement, parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival, il n'y aurait pas les musicales franco-russes. C'est évidemment les grands interprètes qui accueillent 3 concerts du Bolchoï, ce qui est évidemment un projet très risqué, parce que 3 concerts très lourds à la suite à la Halle aux Grains, comment les remplir, etc., c'est pas évident, même si c'est Tougan Sokiev. C'est évidemment le Théâtre Garonne, Jacques Ohayon, qui a tout de suite adhéré à l'idée, donc là il accueille 2 projets de musique de chambre au Théâtre Garonne. C'est évidemment la Cinémathèque et Franck Loiré, avec 3 ciné-concerts, et dont le dernier ciné-concert est le Cuirassé Potemkin avec l'Orchestre du Capitole, ce qui clôturera d'ailleurs les franco-russes. C'est également avec Franck Loiré les rencontres avec le grand cinéaste Andrei Kocholovski. Qui est un disciple de Tarkovski. Et ça, c'est une rencontre absolument majeure pour nous. C'est évidemment la librairie Ombre Blanche qui organise beaucoup de rencontres autour de la littérature russe. Donc un grand merci à Christian Torel. Mais c'est aussi d'autres partenaires. C'est par exemple le Memento Aosh, qui est une cellule contemporaine qui font des choses assez étonnantes. Et donc voilà, on ira à Aosh avec un ensemble de musique de chambre de l'orchestre pour projeter des images.
Ça sera un ciné-concert aussi.
Ciné-concert. Mais c'est aussi la Halle de la Machine qui nous accueille pour un concert de musique de chambre qui sera mis en lumière, en scène, par François Delarosière avec les clarinettes de l'orchestre.
Le musée des abattoirs.
Alors, le musée des abattoirs, bien entendu. C'est également l'abbaye de la Grâce
dans l'Aude.
C'est le conservatoire à rayonnement régional avec notre ami Jean Dequin. Ça, c'est les partenaires actifs qui accueillent la programmation et qui nous permettent donc de mettre en musique, de mettre en œuvre, de mettre en dialogue tous ces programmes. Et puis, un grand merci ensuite à nos partenaires institutionnels, donc la métropole, évidemment, qui est très présente, la région, le conseil régional Occitanie, évidemment, et puis des partenaires médiatiques comme France Musique qui va mettre en exergue donc, toute cette programmation avec une ligne éditoriale franco-russe assez étonnante. Évidemment, la Dépêche du Midi, j'aurais du mal à citer tout le monde. Mais c'est vraiment, ce sont ces partenaires qui nous ont permis, avec Tougan Sokiev, d'imaginer ce projet.
Voilà, nous sommes vraiment au carrefour des arts majeurs, la musique bien sûr, mais aussi le cinéma, la peinture, la littérature. Et Et puis, effectivement, il y a énormément d'échanges entre les artistes russes et français à une certaine époque. À Toulouse, on est bien placé parce qu'il y a un fonds en plus très intéressant, la Cinémathèque de Toulouse, de cinéma russe, qui est l'unique en France, mais quasi unique en Europe de l'Ouest.
Hein. Il est, en fait, c'est après le fonds de Moscou, c'est le deuxième fonds.
C'est extraordinaire.
Voilà. Et donc, évidemment, ça nous permettra d'alimenter, s'il y a des éditions à venir, de continuer à rêver autour du cinéma russe.
On parlera des perspectives après 2020. On va parler d'abord d'un petit bilan de la première édition en 2019. Est-ce que le public a suivi? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Quelles conclusions vous en avez tirées?
Bien, c'était la première édition. On a été très surpris par le rayonnement médiatique national. Après, évidemment, les salles n'étaient pas toujours complètement pleines, ça c'est évident. Donc, on va voir cette année. J'espère que le coronavirus ne nous touchera pas trop, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les salles de concert citées, ou la Lograin, ou le Théâtre Garonne, ou la Cinémathèque, enfin toutes les salles, il n'y a aucun danger.
En tout cas, pour l'instant, il n'est absolument pas question d'annulation, et la préfecture n'a pris aucune décision, on a laissé entendre aucune décision à venir en ce sens. Pour l'instant, on parle de concerts qui vont avoir lieu. Alors, ce qui ne change pas en 2020, c'est que ce sont l'orchestre et le chœur du Bolchoï, théâtre de Russie, comme il faut dire, qui ouvrent la deuxième édition, comme l'an passé, avec trois concerts de prestige à la Lograin les 10, 11 et 12 mars, tous à 20h, et tous faisant partie de la programmation de la saison des grands interprètes, vous le rappeliez tout à l'heure. La star, c'est le Bolchoï, le tsar, c'est Tougan Sokiev, son directeur musical et directeur artistique de ces musicales franco-russes, je le précise au passage. Les deux premières soirées proposent des opéras de Tchaïkovski en version concert, l'un Eugène Onegin est très connu du grand public et souvent donné sur scène, alors que l'autre, Mazeppa, l'est beaucoup moins. Pourquoi avoir voulu enchaîner ces deux œuvres qui ont le point commun tout de même d'avoir des livres inspirés de textes de Pushkin?
Franchement, c'est l'idée de Tougan Sokiev qui voulait absolument faire découvrir Mazeppa au public toulousain. C'est en fait, Tougan, c'est une personne qui adore la musique de Tchaïkovski, qui est très portée par les livrets effectivement de Pushkin, et donc c'était absolument évident. Et d'ailleurs, le livret de Mazeppa est très intéressant.
Mais ce sera probablement la création à Toulouse.
Oui, alors j'allais poser la question, est-ce que ça a déjà été donné à Toulouse? Apparemment non.
Je suppose que non.
En tout cas, pas en version orchestrale.
Et complète.
Mazeppa, Serge, oui. L'histoire, parce que bon... Est-ce que les gens la connaissent bien? Je ne suis pas certain. C'est un poème épique hein, de Pushkin.
Écoutez, c'est un mélange d'amour, de tragédie, enfin des spécialités de Tchaïkovski. Hein, ça lui va très bien. Donc, c'est un poème épique hein, que celui de Pushkin, hein, donc, et qui met en scène le jeune Pierre le Grand, fondateur de l'État moderne russe. Hein. Et donc, c'est quand même le septième opéra hein, de
Oui, de c'est pas une œuvre de jeunesse. Hein.
Non, pas du tout.
Hein.
Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, nous aurons la chance d'avoir un plateau vocal authentique, puisque ce sont des chanteurs du Bolchoï qui viennent hein, pour interpréter les rôles.
Ça sera la grande tradition russe. C'est ce que moi, j'ai remarqué, si vous voulez. Tougan Sokiev a deux façons de travailler. Celle en Europe, avec Toulouse, on le connaît bien, et au Bolchoï, c'est complètement différent. Et moi, ce que je dois dire, on suit son parcours à la tête du Bolchoï depuis quelques années, et l'évolution de la compagnie est absolument incroyable. Incroyable. Et c'est, je pense, va devenir le grand théâtre russe, parce qu'on parle beaucoup du Mariinsky, évidemment, oui. Avec Valéry Gergiev, mais je pense que son collègue Gergiev s'inquiète un petit peu, effectivement, de l'évolution artistique du Bolchoï.
Donc voilà, Mazeppa, Eugène Onegin, on va peut-être pas en parler, ça je pense que c'est beaucoup plus connu. Il y a un troisième concert du Bolchoï le 12 mars, et là ce sera un programme qui rend hommage... Alam Slav, rappelons que le sous-titre des musicales franco-russes, c'est L'âme en partage. Donc ce sera un hommage, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, à la Russie éternelle, à ses paysages et ses traditions. Et donc là, on pourra entendre deux œuvres de Rachmaninov, sa deuxième symphonie et ses trois chansons russes, ainsi que les fameuses danses polystiennes de Borodin, extraites du Prince Igor. Alors là aussi, c'est Tougan Sokiev qui a choisi ces œuvres, sans doute emblématiques de la musique russe.
Alors je dirais que c'était un dialogue entre nous parce que je tenais beaucoup à ce que l'orchestre du Bolchoï puisse, avec Tougan Sokiev, donner une page symphonique. Et naturellement, donc voilà, la deuxième symphonie de Rachmaninov, grand hommage à Rachmaninov que Tougan aime particulièrement, l'âme slave, ça paraissait évident. Et puis les chœurs étant là, évidemment, c'était
logique d'imaginer,
donc comme vous venez de le rappeler, des ouvrages de Rachmaninov avec les fameuses danses polovsiennes
de Borodin. Alors je peux pas diffuser un extrait des deux opéras. J'ai choisi de diffuser un extrait de Eugène Onegin pour Mazeppa. Il faut aller écouter ça en live. On va écouter donc un extrait de Eugène Onegin. Cet opéra de légende de Tchaïkovski. L'extrait est très connu, c'est le fameux chœur des jeunes filles, interprété bien sûr par l'orchestre et le chœur du Bolchoï. Le cœur des jeunes filles, extrait du troisième tableau de l'acte 1 d'Eugène Onéguine, le célèbre opéra de Tchaïkovski, qui sera donné en version concert par le Bolchoï sous la direction de Tougan Sokiev, mercredi 11 mars à 20h à la Lograin. Ce sera la deuxième soirée des musicales franco-russes. La première est donc dédiée à Mazeppa, autre œuvre de Tchaïkovski. Et veuillez noter que pour ces deux opéras en version concert, il y aura des sous-titrages. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne parlez pas le russe couramment. L'autre star de la programmation avec le Bolchoï, bien évidemment, c'est leur Orchestre National du Capitole qui joue à domicile, qui partage le même directeur musical que le Bolchoï et qui va vaillamment défendre les couleurs françaises dans la partie symphonique de cette deuxième édition. Et il va le faire d'abord, lui aussi, avec un opéra en version concert, samedi 14 mars à la Lograin. Un opéra français, mais alors encore moins joué et moins connu du grand public que Mazeppa, je pense, qui sont les compositeurs et librettistes de La Carmélite. Thierry Dargoubet.
Eh bien, le compositeur, c'est le magnifique compositeur Rinaldo Hahn. C'est le porteur de le renouveau de la musique romantique française. Et donc, on y tenait particulièrement parce que c'est un festival franco-russe. Et Toulouse, au fond, a un ADN pour la musique française. Michel Plasson nous a fait redécouvrir beaucoup d'opéras rares, de compositeurs rares. Je pense par exemple à Albéric Magnard. Et donc, nous, on continue. Et Rinaldo Hahn, c'était un coup de projecteur. Donc, c'est évidemment un projet très lourd parce qu'il s'agit de mettre en œuvre 16 solistes, un chœur, donc celui du Capitole, une maîtrise, donc ça aura lieu le 14 mars prochain. Et le livret, évidemment, est intéressant, puisque, en fait, il met en scène la liaison de Louis XIV avec Louise de Lavallière, qui était son premier amour.
Ouais, ouais.
Voilà, donc je n'en dis pas plus.
Encore une histoire d'amour, c'est comme
Mazeppa. Encore une histoire d'amour.
Avec un souverain.
Et je dois dire, je remercie infiniment la Fondation Bruzane, qui justement participe au renouveau de cette musique romantique française.
Le Palazzetto Bruzane. Voilà, donc le librettiste, c'est Catulle Mendès. Alors, qui se souvient de Catulle Mendès aujourd'hui?
C'est un nom qu'on connaît,
qui fut très, très connu et très influent à l'époque, donc fin 19e, donc il faisait partie de cette mouvance des auteurs symbolistes et autres. Né à Bordeaux et qui a passé son enfance et son adolescence à Toulouse. Alors ça, je ne sais pas non plus s'il y a beaucoup de gens qui savent ça.
Je ne sais pas
s'il y a une rue
Catulle
Mendès à Toulouse, moi je n'ai pas vu, mais peut-être. Bon, il a été marié avec la fille de Théophile Gautier, donc voilà, donc quelqu'un qui avait un certain entre-gens. Et puis Rinaldo Hahn, les lecteurs de Proust le savent, c'était l'ami plus que l'ami de Marcel Proust. C'est aussi toute une époque, là, la Carmélite. Alors je veux qu'on parle de la distribution, parce qu'il y a des gens qu'on connaît, et il y a notamment Anaïs Constant.
Ben voilà, on va dire qu'elle était la régionale de l'étape, maintenant qu'elle est la star de cette production. Mais je pense également à Hélène Guilmette, qui porte le rôle-titre de Louise Lavallière, qui en fait va rentrer au Carmel. Donc et c'est oui. Le titre, la Carmélite.
Le titre.
D'ailleurs, vous vous rappelez que Christophe Rissi avait programmé le dialogue Carmélites
avec Anaïs Constant.
Avec Anaïs Constant. Voilà, donc c'est en fait une espèce de petit clin d'œil, si vous voulez. Donc je pense à Yann Beuron.
Éléonore Pancrazi.
Voilà, Jennifer Holloway qui portera également le grand rôle d'Athénaïs. Donc beaucoup de chanteurs français, pas forcément très connus.
Avec un chef britannique, Leo Hussein.
Avec un chef britannique qui a fait des débuts magnifiques à l'orchestre. Dans un ouvrage rare, il s'agissait de La ville morte de Korngold. Et donc, les musiciens l'ont beaucoup aimé. Donc, on lui donne la chance de... Et d'ailleurs, ce concert fera l'objet d'un enregistrement pour toujours la Fondation Bruzane. Enfin, livre-disque. Et donc, l'orchestre, d'ailleurs, vient de signer un contrat important avec la maison de disques Warner Classic,
oui.
Qui est en fait le prolongement des mi-classiques. Donc, l'orchestre sortira au moins 4 à 5 disques par an dans les 2-3 prochaines années.
Alors, cette Carmélite, ça sera une création à Toulouse, mais oui, on en a à peu près certain, je crois, Serge.
Ah ben, je n'ai aucun souvenir ni historique de la création.
Oui, alors est-ce qu'à l'époque, ça a été donné au moment de la création de l'œuvre, il y a maintenant près d'un siècle? Bon, je ne sais pas. Il faudra le vérifier.
Voilà.
Bon, il va y avoir ensuite plusieurs autres concerts de l'orchestre du Capitole durant ces 3 semaines. Il y en a même beaucoup. Il y aura un happy hour à l'heure russe le 21 mars avec Maxime et Liliane Itchef à la direction et Bertrand Chamaillou au piano, concerto pour piano et cordes de Schnittke et concerto pour piano, trompette et cordes de Shostakovich. Très très beau morceau, là aussi c'est pas des œuvres qu'on entend tous les jours, loin de là.
Et avec, alors pour en ce qui concerne, n'était pas mentionné, le soliste trompette qui sera Hugo Blacher fantastique Hugo Blacher
qui nous régale à chaque fois de ses solos avec l'orchestre du Capitole. Lorsqu'il y en a, il y en a assez souvent. Le 22 mars, le lendemain, le matin, encore Maxime et Mélanie Tchef à la direction avec la maîtrise de Toulouse de Marc Hopstadt, maîtrise de Toulouse et du Conservatoire de Toulouse. Alors, c'est un programme liturgie d'Est et Sud-Ouest qui est magnifique, parce qu'il y a des extraits des merveilleuses liturgies de Saint-Jean Chrysostome de Rachmaninoff, il y a les litanies à la Vierge Noire de Poulenc, et puis il y a des pièces de contemporains comme Thierry Esquèche et Caroline Marceau. Alors ça va être très mystique hein, tout ça là, vraiment.
Alors ce qui est intéressant aussi dans la programmation, c'est de noter la part pour la création française, si vous voulez. Donc on parle d'Esquèche, c'est pas une création mondiale, mais c'est une création française. Benjamin Atahir aura une création mondiale avec Tougan Sokiev un peu plus tard, on en parlera.
Lui, c'est presque un habitué, voilà. Benjamin Atahir.
Et ben, en fait, Benjamin Atahir, ça sera le concert suivant du Capitole, puisque c'est le 31 mars. Là, ce sera Tougan Sokiev qui sera à la baguette. L'éveil du printemps, c'est le titre de ce concert. Alors, vous vous en doutez, il y aura le Sacre du printemps de Stravinsky, Nocturne de Debussy, et donc la création mondiale de cette œuvre du jeune compositeur toulousain, Benjamin Atahir. Une de plus, parce que c'est pas la première fois que vous lui faites des commandes.
Benjamin Atahir, en fait, un compositeur, il y a plusieurs façons de le mettre en exergue sur un territoire, si vous voulez. On peut dire il est en résidence, il est ceci, cela. Et en fait, nous, on dit non. On a un lien d'amitié très fort avec ce compositeur. On est lié par pas grand-chose, sauf par la programmation. Et donc, Benjamin, oui, sera à Toulouse pour encore quelques temps. Enfin, je l'espère en tout cas.
Ah, mais c'est très bien. C'est vraiment un compositeur très original, hein, ouais. Qui a un style, une écriture très particulière.
Ancien élève de Pierre Boulez.
Et c'était en fait, même, je peux vous faire la confidence, hein, parce que Pierre Boulez me l'avait dit, c'est un des élèves préférés de Pierre Boulez.
Ouais, ben voilà. L'œuvre s'appelle Alitcha. Là aussi, il faudra y aller pour découvrir de quoi il retourne. Mais je suis certain que, comme souvent, ce sera magnifique. Je sais que les musiciens de l'orchestre apprécient beaucoup de créer les œuvres de Benjamin Atahir. Et puis donc, le 3 avril, il y aura la clôture de la deuxième édition avec l'Orchestre National du Capitole, et donc ce sera ce ciné-concert exceptionnel parce qu'ils vont accompagner à la Lohengrin la projection du Cuirassé Potemkin d'Eisenstein. C'est un des plus grands films de tous les temps, direction Duncan Ward, chef qu'on avait déjà vu l'an dernier pour le ciné-concert de clôture.
Absolument, voilà, dont les musiciens étaient très contents, donc nous l'avons réinvité.
Ça c'est fantastique, hein, parce qu'il y a une œuvre qui a été composée, donc c'est un compositeur autrichien, Edmund Meisel, qui a donc composé cette œuvre sur les images du Cuirassé Potemkin, et ça c'est fantastique. Vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir ça, les cinéphiles pour le film, les mélomanes pour la musique, et puis comme ça vous aurez les deux. Voilà, alors pour illustrer cette partie symphonique de la programmation et ses programmes, on va écouter un extrait du Sacre du printemps, ce chef-d'œuvre d'Igor Stravinsky, L'Adoration de la Terre. Extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, L'Adoration de la Terre, dans une interprétation de l'Orchestre symphonique de Cleveland, dirigé par Pierre Boulez, dont nous parlions il y a quelques instants. Alors, dans ces musicales franco-russes, il y a de la musique pour grand orchestre, de la musique symphonique, mais il y a aussi beaucoup de musique de chambre. Il est vrai que les compositeurs français et russes ont été plutôt prolifiques dans ce domaine, et là, ce sont souvent les musiciens de l'Orchestre du Capitole qui sont mis à contribution. On sait, surtout les fidèles de la saison des Clés de Saint-Pierre, que nombre d'entre eux sont d'excellents chambristes. Comment avez-vous procédé pour bâtir la partie musique de chambre des musicales. Est-ce que vous avez demandé aux musiciens de l'orchestre tout simplement de vous faire des propositions, de vous proposer des programmes?
Eh bien écoutez, avec Tougan Soukiev, c'était très simple. On a fait ce qu'on appelle des appels à candidature auprès de tous les musiciens de l'orchestre et on a eu une très mauvaise surprise, ou très bonne surprise.
Vous en avez eu trop.
On a eu un nombre de candidatures absolument incroyable. Et donc, on a dû faire des choix. Donc, on a fait le choix sur 8 programmes, sur 8 groupes de musiciens, avec des programmes absolument sensationnels, avec quand même des fils conducteurs, hein, c'est-à-dire franco-russe, évidemment, mais également, par exemple, comme on donne un fil rouge, si vous voulez, à Edison Denisov, il est important pour nous de voir ce compositeur décédé depuis quelques temps, maltraité par le régime soviétique, voilà, d'être vraiment mis à l'honneur. Et donc, maintenant, l'orchestre a une espèce d'énergie absolument incroyable, veut ces nouveaux musiciens, puisqu'il y a maintenant beaucoup de jeunes musiciens, qui veulent participer donc à la programmation que l'on propose, et donc à la programmation des musicales franco-russes.
Alors, ces concerts de musique de chambre, il y en aura plusieurs au Théâtre Garonne, d'autres à Saint-Pierre-des-Cuisines, à la Lograin, mais aussi au Musée des Abattoirs, à l'Halle de la Machine, vous en avez parlé, et puis dans la région, donc, dans l'Aude, à l'Abbaye de la Grasse, et dans Gers, à Auch, à ce centre d'art contemporain qui s'appelle Memento. Vous avez aussi apparemment la volonté de proposer de la musique dans des lieux du patrimoine régional ou des lieux insolites comme la Halle de la Machine ou Memento.
Voilà, c'est comment surprendre un public avec nos musiciens du Capitole ou du Bolchoï. Là, c'est évidemment les musiciens de l'Orchestre du Capitole. Et c'est en fait une très très grande satisfaction effectivement de pouvoir aller à la rencontre d'un nouveau public avec des partenaires qui ont vraiment envie de s'associer sur un projet, sur une thématique assez forte.
Alors on entendra bien sûr des compositeurs français et russes joués par les musiciens de l'Orchestre du Capitole, mais on aura aussi Maxime Emelianichev, encore lui, au piano, avec Victor-Julien Laferrière, ce
magnifique violoncelliste qui est venu il n'y a pas très longtemps avec le concerto de Dutilleux.
Ah, magnifique.
Qui était magnifique.
Tout un monde lointain.
Formidable.
On retrouvera Jean-François Zigel qui nous racontera la fabuleuse histoire de Michel Strogoff. Il y aura le ciné-concert, Le Prêt de Bégine, encore un film d'Eisenstein. Ce sera à Auch, justement, à Memento. Voilà. Et puis Olivier Bellamy aussi. Bon, voilà, beaucoup de propositions originales. Alors bon, on a écouté de la musique symphonique, il est temps d'écouter de la musique de chambre, il ne suffit pas d'en parler, nous n'avons que l'embarras du choix. Nous allons donc en profiter pour écouter l'un des musiciens programmés lors des musicales franco-russes dans une des œuvres qu'il va jouer. Eh bien c'est Victor-Julien Laferrière justement, qui interprète la sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy. Il est accompagné ici par le pianiste Théo Fouchonneret. Thank you. Victor Julien Laferrière et Théo Fouchonneret interprétaient le prologue de la sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy, une pièce que jouera le jeune violoncelliste le 16 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines, accompagné cette fois-ci au piano par Maxime Emelianitchev. Il y a également un événement original durant les musicales franco-russes, c'est l'Académie de direction d'orchestre de Tougan Sokiev. Alors j'ai l'impression que la transmission, transmettre son savoir, son expérience, sa passion pour la direction d'orchestre, c'est une chose désormais très importante pour Tougan Sokiev, au point où il en est de sa carrière.
Aujourd'hui, c'est même un point essentiel. Et j'avoue que je m'en réjouis parce qu'il y a malheureusement encore très peu de chefs qui ont envie de transmettre leur savoir-faire. Et si Tougan Sokiev est arrivé, est ce qu'il est aujourd'hui, si Valer Gergiev est ce qu'il est aujourd'hui, Yuri Temirkanov, Semyon Bichkov, c'est qu'ils ont tous été fabriqués par un grand gourou de la direction d'orchestre. Il s'agit évidemment d'Ilya Mouzine. Et donc à Toulouse, au-delà de ces masterclass de cette académie d'orchestre que Tougan va mener, il est à noter que depuis maintenant 3 ans, l'orchestre et l'ISDAT porte un projet, maintenant c'est d'ailleurs l'association Un Dialogue Musical qui porte une classe de direction d'orchestre menée par Sabriye Bekirova, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui fait un travail extraordinaire et qu'on va voir de plus en plus à Toulouse et dans d'autres places, parce que en fait c'est une personne qui a également, avec Tougan Sokiev, travaillé la direction d'orchestre avec Ilya Mouzine. Et donc c'est toute cette tradition, toute cette transmission que l'on veut évidemment revoir vivre. Et aujourd'hui d'ailleurs, les grands chefs d'orchestre, les jeunes, d'où ils sortent? Parfois il y a des gens qui viennent comme ça, mais comme par hasard, en Russie, Ilya Mouzine, vous avez eu une dizaine de très très grands chefs d'orchestre. Jorma Panula, en Finlande, vous avez tout un nombre de chefs d'orchestre finlandais absolument incroyable. On part de Esa-Pekka Salonen, passant par Mikko Frank, jusqu'au jeune Klaus Makela. Donc voilà, si à Toulouse on pouvait, grâce à ces musicales franco-russes, grâce à Sabriye Bekirova et évidemment Tougan Sokiev, imaginer quelque chose pour le futur de la direction d'orchestre en France, en Europe ou dans le monde, ce serait évidemment formidable.
Académie de direction d'orchestre de Tougan Sokiev, les 25 et 26 mars à la Logrin, il y aura un concert qu'on pourrait presque appeler de fin de stage, hein, le 26 mars au soir. Alors il y a d'autres propositions en marge du festival, il y a des conférences, notamment au foyer du Théâtre du Capitole et à Ombre Blanche. Alors j'ai l'impression qu'on devrait en voir de plus en plus dans les années à venir. Bon, c'est quelque chose à quoi vous tenez, semble-t-il.
Un festival qui n'est pas animé par des rencontres, des débats, des conférences, c'est pas un festival, enfin, à mon avis. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je remercie Christian Torel, parce qu'il nous accueille pour des rencontres avec Georges Niva, pour des rencontres avec Konchalovsky, pour des rencontres avec Luba Jorgensen, le Théâtre du Capitole au foyer. Donc c'est des rencontres sur la transmission. Ce sera la première conférence, si vous voulez, avec Laurent Bayle et Tougan Sokiev le 10 mars à 18h. Mais également Christophe Risti qui parlera de Platé, à la découverte de Reynaldo Hahn. Une conférence de Marie Pierret, qui est en fait une membre éminente du dialogue de Trianon, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est professeure d'histoire russe, la grande professeure d'histoire russe de l'université de la Sorbonne, qui nous parlera de la littérature dans les échanges franco-russes au XVIIIe et XIXe siècle. Et ça aura lieu à l'hôtel d'Assez. Enfin, je vous recommande de prendre la petite brochure qui est éditée ou sur le site internet, et vous aurez la totalité de ces rencontres, débats, conférences.
Beaucoup de choses passionnantes. Alors maintenant, on va parler un petit peu des perspectives. Bon, on voit qu'il y a déjà cette année des événements en région. Est-ce que ça va se développer?
L'idée d'aller sur le territoire est une idée pour nous absolument essentielle. Donc c'est un travail qu'on va faire avec la région, avec le conseil régional. Mais surtout, c'est peut-être l'idée aussi de travailler sur d'autres esthétiques. Donc peut-être de travailler un peu plus avec les abattoirs, de voir comment on peut travailler avec Jackie Oyon et Théâtre Garonne sur la dimension théâtrale. Alors tout ça, ça va dépendre évidemment des résultats, je dirais,
de cette deuxième édition.
Est-ce qu'elles vont rencontrer leur public? Est-ce que les partenaires vont être toujours heureux de travailler, voilà, de collaborer ensemble? Enfin, je l'espère de toutes mes forces, mais nous verrons bien.
Et puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut espérer avoir un événement en miroir, côté russe cette fois-ci, des musicales russo-françaises à Moscou, par exemple?
Et donc ça, c'est un travail que nous menons évidemment avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'ambassade de France en Russie, de Russie en France, avec le dialogue du Trianon, et surtout avec le Théâtre Bolchoï, avec son intendant, Monsieur Ourine, comme l'appelle Tougan Sokiev. Oui, je pense qu'il y aura une correspondance en 2021, si l'édition 2021 fonctionne à Toulouse.
Eh bien, c'est sur ces augures que nous allons terminer le présent numéro de Mélomanie, auquel je remercie mon ami Serge Chosier d'avoir participé en m'assistant une fois de plus dans son animation. Un grand merci aussi à Thierry Dargoubet d'être venu à Radio Présence pour nous présenter ses deuxièmes musicales franco-russes et leur programmation. Soirée d'ouverture mardi 10 mars à 20h à la Lograin avec l'orchestre et le chœur du Bolchoï dirigé par Togan Sokiev. Ils vont donner en version concert Mazeppa, l'opéra de Tchaïkovski, les mêmes sont à la Halograin le lendemain pour Eugène Onéguine et encore le surlendemain pour un autre programme. La programmation des musicales franco-russes va se poursuivre jusqu'au 3 avril et il y a vraiment beaucoup de propositions en tout genre, vous l'avez vu, à Toulouse et ailleurs. Je vous invite à consulter le détail de la programmation, à réserver et à acheter vos places en ligne sur le site www.lesmusicalesfrancorusses.fr. D'autre part, je signale les concerts de l'orchestre de l'Université de Toulouse dirigé par Jean-Guy Olive ce dimanche 8 mars à 14h puis à 17h au phare de Tournefeuille avec un programme intitulé Un Américain à Paris. Renseignements sur le site www.out-toulouse.fr. Je signale également le concert d'un nouvel ensemble instrumental, le Consort Apollon, constitué de jeunes musiciens professionnels et fondé et dirigé par Clément Lanfranchi, un jeune chef qui a été l'élève justement de Tougan Sokiev et Sabrié Bekirova à Lisdat. C'est ce lundi 9 mars à 20h30 à l'église Saint-Pierre des Chartreux de Toulouse, avec un programme de compositeurs français des 17e et 18e siècles. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.clementlanfranchi.com. Je signale enfin le concert du Quatuor Girard mardi 10 mars à 18h30 au musée des Abattoirs pour le de la saison bleue. Ils vont jouer un programme de quatuor, le quatuor numéro 3 de Juan Crisostomo de Arriaga et le quatuor numéro 2 de Vincent Dindy. Renseignements, réservations et achats des places sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.